Délivrez-vous. Une émission littéraire présentée par Claudine Bugat pour ceux qui aiment lire et ceux qui n'ont pas le temps.
C'est de zèle.
Bonjour à toutes et tous. Je suis comme d'habitude heureuse de vous retrouver pour commencer une nouvelle saison de Délivrez-vous pour ces deux ailes. Voilà, cela va faire 19 ans cette année que j'anime cette émission au travers de plusieurs radios et je suis très heureuse de travailler pour ces deux ailes. J'attaque effectivement cette troisième saison avec eux. Pour commencer cette nouvelle saison, et j'espère vous pouvoir apporter joie et sérénité dans la lecture, du rêve aussi, et puis coller le plus possible à l'actu, et Dieu sait si elle est innombrable et pas toujours très drôle. Donc, le but de Délivrez-vous de ces deux ailes, c'est aussi, bien sûr, de vous divertir. Pour commencer cette saison, je ne pouvais pas trouver mieux, dirais-je, que de recevoir cet invité que j'apprécie depuis 5 ans. Je sais qu'il est arrivé dans nos vies, dans vos vies, dans ma vie il y a 5 ans avec Le Cri. Il a continué avec Complot, avec L'île du diable et puis l'année dernière avec Le dernier message. Là, il nous revient avec un livre, un thriller, un polar tout autant intéressant. On va retrouver une inspectrice que je sais que vous avez beaucoup appréciée dans Le dernier message. Moi aussi, je suis heureuse de la retrouver. Voilà. J'espère que vous allez avoir le bonheur comme moi de l'écouter, de l'entendre. En tout cas, moi, c'est le cas. Bonjour Nicolas Beuglé.
Bonjour.
Merci de nouveau d'avoir accepté mon invitation pour Délivrez-vous pour ces deux ailes, pour votre dernier livre aux éditions IXO, Le passager sans visage. Alors je le disais, ça fait 5 ans que vous êtes rentré dans nos vies avec Le Cri. Votre succès ne s'est jamais démenti, c'est plutôt une ascension je dirais fulgurante. Plus d'un million d'exemplaires vendus, bref, un succès je dirais sans borne, sans faille et puis qui nous réjouit. Moi, j'ai envie de vous poser une première question avant de parler du livre. Comment vit-on un tel succès, une telle ascension, quand vous êtes l'un des plus grands écrivains polars et thrillers français?
Je ne sais pas. C'est à vous de me dire. pour tout vous dire, en fait, moi, je ne prends pas vraiment la mesure de ce que vous énoncez. Et cette mesure, elle se prend quand, en fait, des personnes, des journalistes comme vous, en fait, le déclarent. Et le souligne parce que moi dans mon quotidien ça a pas changé grand chose si ce n'est que je vis de ma plume et je suis libre, bon, donc pour moi ça c'est capital.
Bien sûr.
Après c'est toujours étrange de s'imaginer que dans notre petite tête à nous d'auteur on a conçu des histoires qui ont été partagées de par tant de cerveaux à des heures, des lieux différents et des cerveaux qui a priori ont pris du plaisir et qui en redemandent. Ça c'est très troublant et c'est pas, on n'arrive pas vraiment à l'imaginer, on n'arrive pas à bien comprendre. Donc si vous voulez, je me suis pas acheté une villa et je roule pas en voiture de sport et
j'en suis certaine. J'en suis certaine.
Je pense que je n'apprécie pas, donc je reste normal en fait, je crois.
Eh bien, c'est peut-être pour ça qu'on vous apprécie aussi, Nicolas. C'est que, au travers de vos livres, quand on vous écoute, quand nous vous interviewons et qu'on vous écoute, on sait que vous êtes resté cet homme-là, c'est-à-dire abordable, ce qui n'est pas toujours le cas, avec beaucoup d'humilité et de simplicité. Et ça, vous savez, pour nous journalistes qui lisons vos livres, parce que finalement, on saute du livre à l'auteur, et quand on vous parle, eh bien, c'est vos personnages qui ressortent au travers de vous, avec qui on parle. On a besoin de ce côté abordable de pouvoir en parler et c'est pas toujours le cas et avec vous c'est ça qui est facile et ça c'est bien. C'est sincère. Alors justement, vous parliez de cerveau. Il en faut du cerveau et des cerveaux pour vous lire, Nicolas Beuglé, parce que depuis Le Cri, Complot, L'île du diable, Le dernier message et celui-là, Le passager j'envisage, c'est que il faut quand même réfléchir. Vos livres nous amènent toujours à faire des recherches et là dans le dernier, dans le passager sans visage, on va retrouver une inspectrice que l'on a beaucoup tous appréciée dans Le dernier message, c'est Grace Campbell. Cette inspectrice est écossaise. Alors, je disais, il faut du cerveau, de la réflexion. De nouveau, là, c'est de la recherche. Vous avez toujours construit vos livres, et sur le dernier, ça se ne démentit pas, sur des faits réels. Comment construisez-vous ça? Comment vous y arrivez? Où trouvez-vous tout cela? Alors, ça demande beaucoup de recherche, j'imagine, mais quel est le déclencheur?
C'est toujours la fin du livre, en fait, qui est le déclencheur pour l'écrire. Il faut que j'aie la sensation que, à la fin du livre, je vous ai délivré au moins une ou deux grosses informations, phénomènes réels, scientifiques, historiques, sociaux, qui sont énormes et à côté desquels, pourtant, moi je suis passé en premier, mais aussi vous, probablement, vous êtes passé à côté et vous puissiez vous dire, mais c'est pas possible que j'ai raté ça.
Oui.
Voilà, je pars un peu de cette idée-là, et tant que je ne suis pas satisfait de cette fin, je ne commence pas le livre, parce qu'au début, je vais vous poser des questions, vous allez, voilà, je vais vous solliciter un peu votre curiosité, mais si à la fin, je vous satisfais pas avec quelque chose qui me semble suffisamment conséquent, ça va pas marcher. Donc, après, où je trouve tout ça, vous savez, moi, je lis peu de romans, je lis beaucoup d'essais, je lis beaucoup de biographies, et ce que j'aime le plus dans les biographies, c'est les notes de bas de page.
Le petit
Donc, parce que
astérix,
c'est
le
là.
petit astérix tout en bas.
Oui, c'est ça, parce qu'en fait, c'est là que se trouvent les références, souvent qu'on ne considère pas comme étant capitales, mais qui souvent font écho à un autre événement qui lui-même, en fait, est très important, mais qui n'est pas très connu. Donc voilà, de fil en aiguille, parfois, hein, ça ne marche pas à tous les coups, mais on arrive à trouver comme ça des
Des
faits qui sont
informations, des
passés sous les
faits.
radars, hein, et qui sont pourtant vraiment très importants.
Alors, la précédente trilogie, j'ai envie de dire ça, Le Cri, Complot et L'île du Diable, c'était avec Sarah Geringen. Je vous signale, mon cher Nicolas, quand même, qu'à la fin de L'île du Diable, vous nous avez laissé sur notre faim. Donc, on attend.
Oui,
Je ne dis rien pour les auditrices, auditeurs qui ne l'ont pas lu, mais on attend quand même, parce qu'il y a une réponse, hein, et elle est importante.
je ne l'ai
Alors.
pas oublié.
Merci. Alors, avec Grace Campbell, dans le dernier message aussi, vous nous laissez aussi sur notre faim. Il y a aussi un message qui apparaît. On va pas dire lequel parce que c'est pareil. Hein, c'est toujours, il faut toujours tourner un petit peu autour des choses parce qu'on ne veut pas dévoiler les choses pour ceux qui n'ont pas lu. Malgré tout, on peut quand même dire que Grace Campbell, il y a une porte dans son appartement, une porte blindée, et elle est tétanisée à l'idée de découvrir ce qu'il y a derrière. En fait.
En fait, elle sait ce qu'il y a derrière, elle n'a pas
Oui.
envie d'y retourner. Elle n'a plus envie d'y retourner. Et effectivement, elle est terrifiée à l'idée de se dire qu'elle va devoir rouvrir cette porte. Et c'est vrai que le dernier message se terminait sur Grace qui pensait avoir trouvé la force de franchir de nouveau le seuil de la pièce qui se cache derrière.
Oui.
C'est ce qui va se passer quasiment au début du passager sans visage, parce qu'elle va recevoir une lettre anonyme qui lui fait comprendre que c'est maintenant ou jamais qu'elle doit retourner dans cette pièce-là. Et cette pièce va la confronter à quoi? Bah, quelque chose qui lui est arrivé d'absolument dramatique dans son enfance, mais sur un événement sur lequel elle n'a pas toutes les réponses, il y a
Oui.
encore beaucoup de zones d'ombre. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que à partir de cette histoire personnelle de Grace, on va raccorder avec on ne peut pas appeler ça un fait divers, moi j'appelle ça un scandale qui, à mon avis, est un des plus grands scandales de ces 20-30 dernières années, qui est complètement fou, qui est complètement
Oui.
improbable. Et pour le coup, comme je vous disais tout à l'heure, je pense que pourtant, vous êtes passé à côté comme moi je suis passé à côté.
Je vous le confirme. Voilà. Oui. Alors, c'est vrai qu'aussi dans le dernier message, je dirais le message était très troublant et il posait énormément de questions. Dans le passager sans visage, c'est exactement la même chose. Alors, en plus, vous nous trimballez de cette Écosse verte où Grèce avait débarqué dans ce monastère sous une pluie battante, un temps épouvantable. Et puis, on va se retrouver aussi dans la forêt noire. En Suisse, ce sont des paysages qui appellent un peu au mystère, un petit peu au recentrage et aussi un petit peu à la crainte. Les descriptions sont toujours très détaillées, c'est toujours très fin, on s'y croirait, on a l'impression que la pluie nous tombe sur la tête en Écosse et que dans la forêt noire, il y a des peaux épouvantables partout. On y est complètement. Et comment faites-vous pour justement que ce soit aussi réel, que ce soit si présent? Vous y êtes allé, vous êtes comment dire, imprégné des lieux?
Alors, il y a deux écoles en fait chez les auteurs. Moi, je ne vais pas sur les lieux. D'autres ont cette volonté, ce besoin de se rendre sur place et de s'imprégner, comme vous le disiez tout à l'heure, des ambiances et avoir une vision quasi journalistique et documentaire de l'endroit dont ils qui vont évoquer ensuite dans leur roman. On a eu souvent ces débats, c'est amusant avec d'autres collègues. Moi, je pars du principe que je me fais pas trop confiance, en fait. C'est-à-dire que j'ai peur que si je me rends sur les lieux, je sois submergé par la documentation et par le souci de devoir dire, ah, mais ça, je l'ai vu, il faut que je le dise, etc. Et de perdre ce qui fait que vous lisez le livre, c'est-à-dire l'intrigue. Et donc, ce que je fais, c'est que je me documente beaucoup et je m'arrête avant de trop en savoir. Mais je me documente sur des choses assez sensorielles, c'est-à-dire que je vais aller voir un peu les ressentis sur la peau, les odeurs, les bruits, pas simplement les images. Et ensuite, j'injecte un tout petit peu de mon imaginaire dedans. Voilà. Donc les choses sont réelles, mais elles sont peut-être pas exactement comme ça sur place. Mais qu'importe, moi mon but, c'est que vous ayez l'impression d'y être. C'est pas de vous fournir une description. Ça, c'est vous n'avez pas besoin de moi. Vous pouvez prendre un guide touristique ou aller directement là-bas. Donc et pour y arriver, je pense au mieux, il faut que moi j'ai l'impression d'y être. C'est comme ça que je trouverai, je pense, le mieux les mots pour vous faire éprouver les mêmes sensations. Voilà entre guillemets ma technique personnelle.
Mais ça marche. En tout cas, ça marche. Moi, je suis restée longtemps en mémoire l'arrivée de Grèce à ce monastère dans le dernier message, et ça m'a profondément marquée. Ça m'a profondément marquée. Vraiment, c'était très vivant.
C'était mouvementé pour elle, oui,
C'était
effectivement.
mouvementé. La pauvre, oui, j'ai imaginé, hein, quand elle glisse dans la boue, enfin, c'était une horreur. J'en avais froid dans le dos et peur pour elle. Mais rétrospectivement parlant, quand j'y pense, c'est vrai, j'ai encore peur pour elle. Alors, dans le passager sans visage, donc on va tourner un petit peu autour des choses. On retrouve, je le disais, Grace Campbell. Alors, elle n'était pas tellement en odeur de sainteté dans le dernier message, et puis de part de son enquête, finalement, elle a retrouvé sa place. Et donc là, ça va être une enquête à part entière pour elle. Force est de constater que vous donnez toujours la part belle aux femmes. Sarah Geringen, Grace Campbell, sont des femmes fortes à qui il arrive toujours un tas de choses, et finalement elles s'en sortent plus ou moins. Ce qui est bien, c'est que ce sont des héroïnes sans en être, c'est-à-dire qu'elles ont des bobos, elles ont leurs drames, elles ont des joies et des peines. Elles sont malmenées, vous les malmenez. J'ai envie de dire. Pourquoi les malmener, c'est donner cette force à une femme, et puis en même temps avec ses fragilités, mais pourquoi ces femmes si fortes et à la fois si fragiles?
Oh, elles pourraient ne pas se confronter à ce qui les rend fragiles. C'est ça aussi. C'est-à-dire qu'elles pourraient se contenter de végéter, entre guillemets, dans l'état dans lequel elles se trouvent, c'est-à-dire qu'elles ne seraient pas obligées, elles pourraient continuer à vivre toutes seules, une petite vie de pépère comme ça, sans trop de défis. Sauf que ce qui fait qu'elle est confrontée à de l'adversité, c'est qu'elle va vouloir connaître la vérité. La vérité sur quoi? Sur ce qui lui est arrivé, sur les gens qui l'ont entourée à un moment. Est-ce que ces gens étaient si bénéfique ou plutôt maléfique à son égard. Et donc, c'est au moment où on fait le pas vers le réel ou vers la vérité que parfois on est malmené. Mais après, ce sont toutes les deux des femmes qui décident de vivre dans le vrai. Et pour ça, eh ben, il va falloir surmonter des épreuves parce que ça se gagne. Parce que c'est souvent caché, parce que c'est souvent caché, et si c'est caché, c'est parce que c'est douloureux, ou parce que des gens ont un intérêt à ce que ça reste caché. Et donc, si on veut aller au bout, ben, et oui, c'est vrai, il faut se surpasser. Et donc, Grace a longtemps et longtemps resté comme ça dans cet état avant le dernier message où elle était devenue même un peu obèse,
C'est vrai.
elle s'était laissée aller,
Mal dans
donc ça
sa
n'allait
peau,
pas.
mal dans
Voilà.
sa peau, oui.
Et là, elle n'était pas bien, mais voilà, donc elle n'est pas devenue une femme athlétique, que ça n'a rien à voir, mais donc elle a retrouvé une certaine confiance dans son corps, et ça lui donne aussi une confiance morale, mais tout n'est pas résolu, et elle sent bien qu'elle est encore un peu au bord du précipice, et qu'elle peut chuter à tout moment, hein. Donc
C'est vrai.
elle se bat avec ses démons aussi de boulimie, de choses comme ça, qui sont encore un peu présents en elle, mais c'est ça qui la rend, je pense, moi j'espère, attachante et intéressante, c'est
Complètement,
qu'elle est
oui.
normale, quoi, elle est
Tout à fait.
normale.
Alors, une chose j'ai trouvée étonnante, et je suis sûre que je ne suis pas la seule dans le passager sans visage. Alors, je ne sais pas comment dire, si on l'inclut, si on. Si, en tout cas, il y a ce conte de Grimm, Le joueur de flûte de Hamelin, qui est un roman d'enfance. Alors, je vous l'avoue, je l'avais pas lu. Et donc, et ben force de, j'ai commencé à le lire. Et alors, ma question, c'est pourquoi? C'est quelque chose qui vous a hanté? C'est un livre qui vous a fait peur? C'est vrai que visiblement, il n'a pas l'air très drôle. Qu'est-ce qui s'est passé entre Nicolas Beuglé et Nicolas Beuglé?
J'ai voulu effectivement Grace, elle va faire une enquête sur elle et c'est sur son enfance.
Oui.
Et qu'est-ce qui marque l'enfance? C'est aussi les histoires qu'on nous raconte quand
les
on est
lectures.
Petit.
Ouais.
Elle façonne notre imaginaire et elle crée aussi nos peurs. Elle nous aide à nous construire face à l'adversité, mais souvent, en fait, elle génère en nous pas que des peurs, mais même des terreurs, alors qui sont parfois constructives, mais qui sont parfois destructrices. Et je me suis beaucoup questionné sur ces histoires qu'on racontait aux enfants. Je me disais quand même, mais moi j'en ai raconté à mes filles, mais il y a des moments où je me disais, mais c'est quand même très violent tout ça. Et parmi toutes ces histoires-là, il y en a une qui me travaillait depuis des années et des années, et je ne savais pas trop pourquoi. Effectivement, c'est celle du joueur de flûte de Hamelin. Et vous savez pourquoi, en fait, c'est la plus glaçante et la plus terrifiante de toutes. Parce que, et c'est ce que j'ai compris en écrivant le livre, hein, pas avant, c'est qu'en fait, c'est la seule qui ne fait pas appel à la magie, au fantastique.
Oui.
C'est la seule où il n'y a pas de monstre qui se déguise, ou de
loup. En prince charmant.
C'est la seule qui n'a pas d'ogre, c'est la seule qui n'a pas de fée. C'est la seule. Et donc, je me suis souvenu de cette histoire-là et je me suis dit, mais pourquoi c'est ça qui fait qu'elle m'a glacé? C'est qu'en fait, je sais, savais au fond de moi, en tant qu'enfant et maintenant en tant qu'adulte, qu'elle était trop réelle.
Oui, c'est ce que j'ai
Et dès lors
proche
qu'elle
du réel.
Était si réelle, je me suis dit, mais et si ça se trouve? Et si ça se trouve, c'est peut-être la plus réelle de toutes, parce que ça se trouve, elle est bien réelle, cette histoire. C'est comme ça qu'est née aussi mon envie d'en savoir plus, et ce que j'ai trouvé, forcément, était au-delà de ce que j'imaginais.
J'imagine. Mais c'est vrai que c'est assez surprenant, et en même temps, c'est vrai que les contes, c'est fait pour rêver. Là, le joueur de flûte de Hamelin, finalement, il nous ramène à la réalité. Mais en tant qu'enfant, est-ce qu'on peut le comprendre? En tant qu'adulte, on peut l'aborder. Voilà, c'est un peu... Enfin bon, j'en dis pas plus, mais c'était intéressant. Voilà, le sujet était intéressant. Alors donc, notre Grèce va être confondée à un tas de choses. Donc, c'est cette porte, c'est ce qu'il y a derrière. Alors, on peut quand même parler du message qu'elle a trouvé sur son paillasson, quand même, malgré tout. Vous
Oui, c'est
m'autorisez.
que
Tu n'es pas seule. Tu
je
n'es
n'ai
pas
pas seul
seule.
À chercher,
À
effectivement,
chercher,
et
oui.
c'est que là où elle croyait avoir gardé au secret ce qu'il y a derrière cette porte depuis des années, être la seule à savoir, au point de presque préférer mourir plutôt que des gens découvrent ce qui était caché, elle réalise que eh ben, qu'il y a quelqu'un qui sait ce qu'elle est en train de chercher. Qui sait? Pourquoi? Est-ce que cette personne est plutôt une personne qui lui veut du bien ou une personne qui veut la manipuler? Ça, c'est... Et puis surtout qui? Dans son entourage, parce que ça lui semble improbable, surtout après tant d'années. Donc, beaucoup de questions, beaucoup d'hésitations, beaucoup de doutes, beaucoup de brouillard autour de tout ça. Et surtout, l'obligation quasiment pour Grace d'aller revoir des gens qu'elle a plus depuis des années, ça s'est mal passé, notamment sa mère, qui est très très vieille, mais qui a peut-être des choses encore à lui dire.
À lui dire, Moi, en lisant votre livre, vous savez, j'ai eu l'impression, au fur et à mesure du temps, d'un train qui démarre comme ça, lentement, qui quitte une gare. Alors peut-être parce qu'il y a le mot passager dans le titre, hein, c'est fort possible, et c'est peut-être fait exprès aussi. Et tout d'un coup, d'un train lancé à toute vitesse. Et Grèce, elle est embarquée là-dedans.
Oui, mais c'est la construction que j'apprécie le plus. C'est que je pense qu'au début, si je veux vous inviter à une promenade, je ne vais pas vous tirer par le bras d'un coup et puis en vous disant « Ah, c'est par là !» Vous me dites « Attends, je ne te fais pas confiance, puis ce n'est pas comme ça qu'on apprécie les choses, donc je vous prends par la main tout doucement. » Mais vous savez déjà qu'il y a une petite musique au loin qui fait que le chemin, il ne va peut-être pas être éclairé toute la journée. Et puis, petit à petit, je vous emmène jusqu'au moment où vous ne pouvez plus repartir en arrière parce que vous serez perdu. Et puis, de toute façon, vous voulez savoir ce qu'il y a au bout du chemin. Donc, oui, c'est un peu cette construction-là qui fait écho, effectivement, à ce train surgi de nulle part dans lequel Grace va être amenée à monter sans savoir où elle va aller, vraiment.
Oui. Alors, je vous ai, j'arrive parfois, peut-être parce que à force de parler depuis plusieurs années avec certains auteurs, on arrive à se comprendre, à s'entendre, à s'écouter. Et cette fois, je ne sais pas pourquoi, les autres fois, ça ne me l'avait pas fait, mais là, je vous ai imaginé assis devant votre ordi. Et à lever parfois le visage en disant bon alors j'y vais comme ça, j'écris comme ça, allez je les emmène, allez j'y vais, je fonce. Et ça m'a fait ça plusieurs fois au cours de ma lecture.
C'est-à-dire que vous vous demandiez si j'étais
à un moment donné
sur la manière de vous conduire jusqu'à là où
voilà,
je voulais.
Voilà, vous levez le menton, vous réfléchissez, je les emmène comme ça, est-ce que je prends ce chemin-là? Bon allez, hop. Souvent ça m'a fait ça au cours du livre. Vous voyez, alors peut-être parce que j'étais dans la peau de Grace Campbell et ça bien sûr c'est bien joué, mais ça m'a fait ça à plusieurs reprises de vous imaginer en train de réfléchir de quel chemin vous alliez prendre.
Ben, c'est que peut-être, là pour le coup, ça je peux pas le juger.
Oui.
Ce qui est sûr, c'est que je passe pas mon temps uniquement la tête baissée sur l'écran et qu'il m'arrive effectivement de réfléchir et de me poser des questions.
Oui.
Là, on était dans des questionnements assez compliqués vis-à-vis de
Oui.
Grace parce que le vrai défi, c'est pareil pour tout le monde, c'est-à-dire que on a envie d'aller mieux, on se dit, bah, si je connais la vérité, j'irai mieux. Mais sauf que plus on creuse, plus on se rend compte que c'est peut-être effrayant ce qu'on va trouver. Et donc on hésite et donc on se dit, ah non, mais il faut que j'y aille. Mais oui, à la fois, en même temps, j'ai peur. Bon, puis en même temps, je suis peut-être allé trop loin pour reculer maintenant. Donc peut-être qu'il y a ça qui se traduit effectivement dans votre perception.
Alors, ce qui est aussi important dans le livre, ça fait référence beaucoup à l'enfance et notamment à l'enfance de Grace, mais chacun peut s'y retrouver dans ses terreurs, dans ses peurs, ses angoisses, dans ses joies et dans ses peines aussi, par rapport aussi à des adultes, par rapport à des souvenirs, à des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps. C'est tout ça aussi que vous avez véhiculé aussi dans ce livre, le souvenir, l'angoisse, l'appréhension, les traitements psychologiques de l'enfance qui sont marquants, on ressent aussi tout ça dans le livre.
Mais j'avais envie d'avoir de vous donner cette sensation que adulte, je sais pas, 30, 40 ans, peut-être plus, et ben un jour vous retournez dans la chambre de votre enfance, celle qui vous a le plus marqué, elle est intacte. Elle est telle que vous l'avez quittée le dernier jour où vous êtes parti de cette chambre. Et dedans, il y a tout. Il y a tout. Il y a vos jouets, vos dessins, vos. Tout, tout. Et puis petit à petit les choses reviennent, c'est-à-dire qu'en fait vous vous rendez compte que vous les avez jamais oubliés, ces peurs-là, même ce dessin sur ce petit livre, et ben vous vous rendez compte qu'il vous est très familier alors que vous l'aviez pas vu depuis des années. Et puis cette familiarité avec ce dessin, elle vous rappelle aussi l'émotion que vous avez eue en lisant ce livre par exemple, et puis de ce que vous a dit votre mère ou votre père à ce moment-là. Et c'est ça que j'avais envie de raconter, sauf que c'est fait sous la façon d'un thriller, c'est-à-dire que
Oui, bien
vous avez
sûr.
peut-être une vie plus cool que Grace,
Oui.
heureusement, sauf qu'elle, à ses souvenirs d'enfance, se mêle un traumatisme qui va en plus l'emmener sur une enquête qui dépasse sa propre histoire.
Ça,
Donc oui, il y a ce côté suranné un peu de l'enfance, ce côté aussi un peu, comment dire, embrumé avec ces espèces de flocons de neige qui font qu'on est un peu hors du temps. Et pourtant, tout ce qui est arrivé à Grèce est bien réel. Donc voilà, j'avais envie de ce flottement, oui, effectivement, entre le rêve et le réel, mais sans vous raconter n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas
Oui,
de
bien sûr.
fantômes ou de choses comme ça. C'est-à-dire
Oui.
tout est très réel. Mais quand même, c'est la sensation qu'on a, je pense, quand on essaye de se rappeler, de se plonger dans des vieux souvenirs. Voilà.
Alors, au-delà de son enquête, hein, qui va nous emmener, je dirais, très loin dans l'émotion, dans les cheveux qui se dressent sur la tête et dans le bon, je pose le livre, on verra ça demain et puis ça vous quitte pas et vous avez hâte d'être au lendemain pour continuer. Ce qui a été aussi, finalement agréable, c'est que Grèce, on en a fait connaissance dans le dernier message. Moi, je l'avais pas tout à fait humanisé, c'est-à-dire que j'avais du mal à l'imaginer en tant que personne, en tant qu'humain. Et là, avec le passager sans visage, du fait de ces terreurs, de ces angoisses, de cette enfance, de cette porte, de ce secret qu'il y a derrière cette porte, elle est venue à l'état humain. C'est-à-dire que je me suis dit, bah oui, elle a eu une enfance, elle a été une petite fille, elle est devenue adulte. Voilà, ça me l'a, j'ai pu me l'approprier plus facilement.
Ah oui, mais je suis content que vous ayez eu cette sensation parce que c'était vraiment le but aussi. Et dans le dernier message, comme vous le disiez tout à l'heure, je vous ai embarqué dans une enquête et Grace était là, mais bon, voilà, on connaissait pas tout parce que l'enquête avait pris le pas sur elle. Et là, le but, c'était vraiment de revenir sur ce personnage-là et sur ses mystères et sur ce qu'elle est en tant qu'être humain, comme nous tous, quoi. Voilà, effectivement. Donc, je suis content que ça soit perçu comme ça.
Surtout que le dernier message, c'était, je trouve que c'était ardu. Pour moi, c'était l'une des enquêtes au niveau du thème, des faits, quelque chose d'ardu, pas de complexe, mais d'ardu dans la compréhension, dans l'assimilation même. Vous voyez,
Oui, c'est
ça
vrai.
remettait en question toutes nos croyances sur la religion, l'univers, le monde. Vous voyez, c'est
C'est
ça
vrai.
aussi qui était troublant. C'est ça aussi qui était troublant.
C'est vrai. Mais c'était le moi d'avoir confronté Grace à ça. Alors je l'ai confronté qu'à moitié en fait. Mais bon, c'était important et c'était une manière pour moi de vous faire part de certaines grosses préoccupations que j'avais à l'égard des évolutions de notre monde et de notre société et qui se
Et de
confirment
l'univers,
dans ce que je vous.
et des messages que pouvait nous envoyer l'univers, en fait,
Oui,
aussi.
et aller au-delà de ça. Voilà, c'est ça qui est passionnant, c'est que quand moi je découvre des nouvelles théories sur les formations de l'univers ou sur le sur les origines de ce que nous sommes et de notre univers et de ce qui pourrait être à la fin, et surtout des hypothèses qui sont plausibles et qui commencent même à être étayées par des débuts de preuves, c'est tellement vertigineux, c'est tellement intéressant, et c'est dangereux aussi parfois pour certaines personnes, pour moi le premier, si on y pense trop. Mais voilà, je me dis que on peut pas. Si on peut traverser la vie en se nourrissant d'autant de connaissances, moi ça me rend heureux. Donc voilà, après j'essaie de le partager. Et en revanche, dans Le Passager sans visage, on est dans des révélations qui sont plus terriennes, on va dire, plus concrètes, plus sociales, plus humaines, mais tout aussi, moi je pense, tout aussi effrayantes.
Toujours aussi effrayantes et importantes, mais c'est vrai, je dirais plus. Pas plus compréhensive, mais peut-être plus abordable, plus facilement. On y rentre plus facilement. Vous voyez ce que je veux dire? On se pose les mêmes questions.
Oui, c'est
vrai. Mais voilà, c'est plus doux. Le mot n'est pas. C'est pas plus, c'est, le mot est très mal choisi, mais voilà, c'est plus terre à terre, c'est plus terrien.
Oui,
voilà,
c'est vrai.
Voilà, c'est ça. Alors, j'imagine que l'on va retrouver Grace Campbell dans le troisième livre, dirais-je, de Grace Campbell, parce que ce sera aussi une trilogie, non?
Oui, c'est toujours, ça a été construit comme ça, et d'ailleurs surtout le Passager sans visage a vraiment été construit en pensant au troisième.
Ouais.
Je pouvais pas écrire le deuxième sans savoir ce que j'allais mettre dans le troisième, parce que les grands adversaires de Grace ont un plan on va dire quasiment en trois parties. La première a été révélée dans les messages, la deuxième là dans Le Passager sans visage, et c'est vrai que le final ça sera pour le prochain. Et puis bon, à la fin du livre il y a aussi quelque chose qui fait que beaucoup de personnes ne peuvent pas imaginer que je n'ai pas pensé à la suite compte tenu de ce que j'ai écrit dans
les messages. J'en étais persuadée, je vous ai posé la question pour la forme. En tout cas, ce passager sans visage nous raconte une histoire toujours aussi tonitruante, toujours aussi intéressante dans ce train où vous nous embarquez avec Grace, et on le prend bien volontiers avec elle, même si parfois on voudrait la laisser devant, sur le devant de la scène, et se planquer derrière elle. En tout cas, ça a été un vrai plaisir de parler avec vous, Nicolas. Ben, je vous donne rendez-vous dans un an pour le troisième opus du Passager sans visage. Sans doute qu'il y aura un autre titre, mais ce sera bien évidemment la suite. On retrouvera avec plaisir Grace Campbell. Mais n'oubliez pas que nous attendons aussi Sarah Geringen pour une autre fois, bien évidemment. Un Passager sans visage, c'était avec Nicolas Beuglé aux éditions XO. Merci Nicolas, merci infiniment de votre fidélité à l'émission.
Merci beaucoup à vous.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Quant à nous, bien, nous nous retrouvons pour une prochaine émission. Je voulais vous donner aussi quelques rendez-vous pour les semaines et les mois à venir. Il y aura bien évidemment, comme d'habitude, les beaux livres de chez Gallimard, les albums. Et nous allons retrouver Antoine, que nous avions quitté il y a 2 ans pour la Polynésie. Là, nous allons retrouver pour une escale en Nouvelle-Zélande. Et puis également, Les Trains de Nuit, aussi un très beau livre. Et puis, bien d'autres auteurs. Nous allons retrouver également Christian Jacques. Bien, tous ces gens que vous aimez lire avec plaisir. Voilà, en tout cas, merci de votre fidélité pour Délivrez-vous, pour ces deux ailes, et je vous souhaite donc une belle saison littéraire. À très bientôt, merci, au revoir.